actuelle, je me suis dit que peut-être il s'agit du retour éternel de Nietzsche avec cette notion à la fois diffuse, souple, un peu universelle et souvent très très difficile à actualiser, surtout dans le contexte actuel, comme on vient de le voir, que ce soit avec des jeux vidéo ou que ce soit avec ce que Manuel a essayé d'articuler ce matin. Et en effet, c'est bien cette difficulté de du concept, d'une notion du virtuel que j'aimerais un petit peu interroger à ma façon, mais avec, et j'espère que vous serez un peu tolérant avec moi, un point de vue assez excentrique, si je me permets de dire, parce que ce sont des recherches qui sont en cours, que j'aimerais présenter quelques réflexions, mais quelques petites remarques avant d'entrer assez rapidement dans le sujet. Il me semble aussi qu'avec le mot virtuel, c'est un concept qui, aujourd'hui, dans le contexte des études consacrées, disons, à la culture numérique dans le sens le plus général du terme, est plutôt français ou francophone, et qu'on retrouve très peu de la même façon et de la même manière dans le monde anglophone. C'est important parce qu'il me semble qu'il y a un clivage dans le regard et la manière de saisir à la fois l'objet et les outils comme les pratiques qu'il est censé décrire et saisir. Si vous voulez une preuve, je n'ai pas beaucoup d'aide visuelle, mais vous pouvez rechercher sur Amazon.com et Amazon.fr virtual ou virtuel, vous allez trouver des choses très très différentes. Sur le site anglais, vous allez trouver tout ce qui est virtual assistant, et sur le site français, vous allez trouver de livres philosophiques. Et je vois ça a quand même saisi quelque chose d'important et qui est assez éloquent. Deuxième élément de cette dimension, en tout cas, qui est la nôtre aujourd'hui de virtuel, c'est qu'il me semble dans certaines de ces acceptations qu'elle partage d'une forme non pas d'utopie, mais d'universalisme qui émane un petit peu d'une pensée leibnizienne. Et là, il faut peut-être se reporter au texte Horizon de la pensée humaine, où Leibniz a essayé de faire le calcul pour voir à quel moment dans notre histoire on va arriver à tout énoncer. C'est-à-dire, si on fait le calcul en termes de probabilité, avec les langues qui existent, ou même dans une langue unique, on peut faire le calcul et projeter à quel moment on aurait tout énoncé. Mais il fait une distinction importante que énoncer n'est pas penser. Et que même avec les mêmes mots énoncés, on peut avoir des pensées différentes. Il me semble que le virtuel véhicule quelque chose de cet ordre-là dans ses acceptations un peu diverses. Alors pour ce qui est mon propos aujourd'hui, je m'intéresse actuellement à ce que j'appelle un peu, de manière un peu floue, l'imaginaire de l'intelligence dans le cadre de l'environnement numérique. Et par intelligence, je ne veux pas du tout dire une intelligence artificielle ou ses modèles, bien qu'il est presque impossible de ne pas y toucher d'une manière ou d'une autre, mais surtout cette forme d'intelligence collective, diffuse, ambiguë, parfois ambivalente, qu'on ne cesse de nous faire projeter à travers les plateformes et qui, à mon avis, se nourrit d'une manière assez intéressante de toute une série de textes ou de mythes, et ce sont ces textes et ces mythes qui m'intéressent le plus. Et finalement, ces textes, effectivement, sont des textes de fiction, qu'on les appelait à un certain temps de science-fiction, et à mon avis, il faut peut-être modifier le nom, parce qu'il ne s'agit plus de science-fiction, comme je vais essayer de le dire peut-être un peu rapidement, mais plutôt de digifiction, si je me permets une formule un peu sauvage, mais quand même pas, parce que ce sont surtout des structures narratives classiques qui racontent l'hybridation et surtout les passerelles entre les domaines du récit qui sont ancrés dans des modèles de jeux vidéo, qui peuvent être des jeux vidéo de guerre et de tir, mais pour moi ce n'est pas ce qui m'intéresse les autres. Ce sont des univers créés selon des formes hiérarchiques qui sont des formes de gestion à la fois de l'affect et de la réputation à l'intérieur même de l'espace du jeu et qui créent des valeurs qui peuvent passer vers le monde entre guillemets réel, que ce soit du point de vue économique ou d'autres points de vue, que ce soit de la réputation, de l'identité, en tout cas des formes d'échange qui se mettent en place. Et surtout ce qui m'intéresse dans ces dimensions, ce sont les structures théologiques, religieuses, qui sont à mon sens très fortement opératoires dans la construction et la mise en forme de ces jeux vidéo. Et finalement, juste une dernière remarque, c'est que ces mondes virtuels, si vous voulez, je vais essayer de dire que peut-être dans le discours aujourd'hui, surtout de ce qui touche à ces mondes persistants, il faut peut-être s'éloigner, non pas nécessairement abandonner, du mot virtuel pour les désigner. Et peut-être utiliser un autre terme qui a été formulé depuis quelques années, qui est le metaverse de Neil Stephenson, et qui comme il a dit lui-même, je vais le citer un peu plus tard, il dit qu'il a inventé ce mot parce qu'il ne trouvait pas de formule qui était appropriée pour parler de la complexité actuelle des mondes virtuels. Et je crois, à mon sens, il a quelque chose de très important dans ce déplacement, dans ce glissement, dans le vocabulaire qui se met en place. Comme je disais, c'est, en fin de compte, ce sont ces formes de mythologie, de l'imaginaire de l'intelligence, qui sont nourries souvent à la fois des jeux vidéo, mais aussi des récits de science-fiction, et qui, pour moi, sont importants parce qu'ils reprennent, pour citer la formule de Claude Lévi-Strauss, les éléments traditionnels, c'est-à-dire les éléments qui échappent à la forme de la rationalité dans le cadre d'une rationalité algorithmique et d'un formalisme sémantique qui est celui du monde, disons, numérique ou de sa culture. Alors voilà, là, c'est un petit peu le cadre.
Il a peut-être juste Metaverse, là tu pourrais juste...
Metaverse, c'est un mot qui a été formulé par Neil Stephenson dans un roman qui s'intitule Snow Crash, qui est un roman fondateur de toute une tradition, et c'est Meta-univers, et qui dit en effet, c'est l'assemblage à la fois des mondes entre guillemets virtuels, et surtout leurs moyens de communiquer dans les deux sens, avec l'actuel et le réel. Et c'est surtout avec une sorte de... Il faut lire le roman, je vais en discuter un petit peu rapidement, dans un très très beau... Ça a été traduit en français sous le titre Samouraï, je vous dis quelque chose de ce genre-là, qui raconte l'histoire à la fois du Babel linguistique en référence avec les Sumériens jusqu'à aujourd'hui avec une multiplicité des langues, mais en même temps avec des formes de visualisation du code qui sont données aux hackers. C'est un univers assez complexe et il a inventé le mot métavers qui aujourd'hui, maintenant, si on regarde même pour les gens qui discutent, ceux qui s'intéressent à la sociabilité numérique actuelle, de social graph, le graphe social, on parle de métavers. C'est intéressant que le mot commence à venir au-delà juste des jeux vidéo, si tu veux, mais voilà. Alors, je me suis permis, c'est dans ce cadre-là, dans ce retour au virtuel, de partager avec vous ces quelques réflexions. Et surtout, ce qui m'a intéressé, ce sont les formes d'action inscrites dans des mondes possibles, mises en place par les industries du simulacre, et je dirais, pour reprendre l'expression cartésienne, pascalienne, les industries du divertissement. Parce qu'il me semble qu'il ne faut pas seulement insister sur la dimension de la simulation, mais également la dimension parfois difficile du divertissement pascalien, et surtout comme elle a été reprise par quelqu'un comme Benjamin un peu plus tard dans son livre sur le travail. Mais on n'aura pas le temps aujourd'hui. C'est ce contexte qui est lui-même habité par des tensions, voire même des contradictions qui sont caractéristiques d'une réalité, souvent perçue ou du moins présentée comme ou bien excessive ou bien défaillante, comme on vient de voir, surtout avec des conditions de jeu de guerre, de jeu de tir, est-ce qu'on est vraiment dans la réalité ou bien on déréalise jusqu'à tel point qu'on perd tout rapport avec la réalité. Une sorte d'oscillation continue entre d'un côté le trop de réalité, porté par des environnements immersifs et des prototypes d'augmentation, et de l'autre une supposée pauvreté de cette même réalité, appartenant comme elle doit à l'ordre du simulacre et de la simulation, et peuplée par un éloignement du concret, du vrai, ou du moins de la vraie réalité, ou de l'actuel, ou surtout de la présence. Dans ce cas, le retour au virtuel ne serait qu'un septembre d'une négociation continue, avec les contraintes issues d'une banalisation, et surtout d'une généralisation des moyens, non pas seulement de participer au virtuel, mais plutôt de le créer. Tendance qui nous est familière car elle participe à une mouvance habituelle au sein de l'écosystème numérique actuel. Les industries du divertissement et de la simulation reposent de plus en plus sur une forme participative, invitant les acteurs à modifier le monde qu'ils peuplent. Et ce sont ces jeux-là qui m'intéressent. Non pas seulement les jeux de tir, mais les jeux où des joueurs ont une capacité de recréer, reconfigurer leur univers et leur monde. Qui peuvent une sorte de mise en abîme du virtuel. Mieux encore, ces espaces virtuels communiquent de plus en plus avec le réel et l'actuel. Qu'il s'agisse de transfert de données ou de valeurs, qu'elles soient monétaires ou autres, il suffit de penser à Second Life par exemple. Les dollars peuvent être communiquer. On va parler d'un roman qui, tout est construit sur cette communication économique, financière entre les deux mondes, entre les deux, ou bien de dissémination de données, de valeurs et surtout d'identité. Parce que ce sont les identités et les avatars qui deviennent les sites de, la, de cette valorisation. Dans un tel contexte, alors on peut se demander pourquoi j'ai choisi le mot habitus. Surtout dans un contexte français, on sait qu'il est tellement fortement, densément associé à la pensée de Pierre Bourdieu. Le mot comme le concept sont tellement investis ici, évidemment, avec la pensée de Bourdieu, c'est pas ce qui m'intéresse, évidemment. Je n'ai ni les compétences, ni l'intention de récapituler, ni de poursuivre ce débat méthodologique sur l'intérêt en sociologie ou ailleurs en sciences humaines. Ce qui m'intéresse dans l'habitus, c'est tout simplement, je crois, l'étymologie. Et la coexistence des usages à la fois savants et populaires dans le mot lui-même. Ça, il suffit de regarder le latin, je vais essayer de passer assez rapidement sans faire trop d'étymologie. Cette cohabitation tient lieu également d'une variation dans le passage du mot latin en anglais et en français. Ça a été noté souvent, hein. C'est-à-dire habitus, en français c'est habit, en anglais c'est habit, c'est pas la même chose. On a plus tard retrouvé un équivalent en français qui est dérivé de l'italien, coutume, costume. On voit les inversions qui sont très intéressantes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement au lien qui existe entre habit et habit. Parce que c'est exactement ça ce qui est intéressant dans les jeux vidéo. En gros, et surtout dans le monde virtuel. Si l'adage latin exprimait déjà cette parenté, sic ut vestis corpus, it habitus vestit, l'habitus habille l'âme comme le vêtement le corps, hein. C'était un proverbe très populaire. Les jeux vidéo, en tout cas certains jeux vidéo, nous permettent de suivre dans un milieu ordonné cette dynamique spécifique de l'habitus. C'est dans ce sens que dans le virtuel et ses industries, l'habitus rend possible l'inscription du corps dans une pratique essentiellement imaginaire, mais qui est implicitement une interactivité, naguère implicite, et aujourd'hui visible. Souvent, la première action consiste à habiller son corps. Il suffit de créer un compte sur Second Life et vous avez un avatar nu, neutre. Il faut l'habiller. Et c'est exactement cette étape qui, à mon avis, est très formative parce qu'elle est constitutive de l'identité, mais surtout de l'efficacité de l'identité et de la présence numérique dans le milieu immersif. Il faut lui donner une identité. Et cette identité se construit dans ses premiers gestes par les vêtements, par les costumes. Dans les jeux comme Halo, par exemple, les vêtements sont en effet des uniformes qui spécifient des identités de groupe, des allégeances, des pouvoirs et surtout des choix explicites. L'hiérarchie dans une grande partie de jeux participatifs et immersifs et persistants est représentée par les costumes et les pins, qui sont des marques de distinction qu'il faut mériter, et qui délimitent le champ d'action et le potentiel d'intervention de tel ou tel avatar dans tel ou tel milieu ou contexte. Un autre élément frappant de ces liens entre l'habit et le virtuel est bien sûr les outils. En tout cas, les premiers outils de ce qu'on appelait à l'époque VR en anglais, Virtual Reality, n'est-ce pas, de l'ONU, la réalité virtuelle. Je n'ai pas les photos, mais j'imagine que vous vous rappelez tous, on se rappelle tous les gadgets, les casques, les gants, tout ce qu'on parle. Il fallait également habiller le corps pour lui donner accès à cette nouvelle réalité qui était appelée, nommée, désignée comme réalité virtuelle. Et c'est l'habit, le gant par exemple, ou le casque, qui est l'interface essentielle entre les deux, soi-disant actuels, réels, virtuels, réels, actuels, ainsi de suite. La simulation se jouait dans l'acte, dans une forme de du faire, c'est ça ce qui est intéressant, porté par le corps et par ses gestes. Aujourd'hui, c'est le tactile qui est en grande partie remplacé, ces instruments supplémentaires. La vie était le moyen d'actualiser dans l'espace dit virtuel cette première itération du virtuel qui me semble importante à revisiter, car elle mettait en place une forme primitive, dans le sens logique du terme, d'un dispositif qui explicite des formes implicites, intériorisé d'action et de médiation. Et c'est ça la définition en gros simple de l'habitus. On agit selon quelque chose qui n'est pas visible, mais qui est intériorisé de manière sociale et socialisée, et qui ne peut que se montrer. La force de l'habitus comme interface réside précisément dans cette circulation entre des formes d'action ordinaires et des actions émergentes en fonction des milieux et du contexte. Reste à voir si ces formes émergentes seront ouvertes au libre choix ou bien si elles seront soumises à des exploitations intelligentes, des habitudes et des coutumes formées par les mondes virtuels. Dans ce cas, l'opinion de John Lanier, qui est l'inventeur quand même de la réalité virtuelle, est éloquente dans son dernier livre, qui est un très beau titre. Quoi qu'on pense du contenu, ça reste à discuter. « You are not a gadget ». C'est un manifeste quand même humaniste. Dans son analyse de la dérive collective, et c'est ça ce qui m'inquiétait, Lanier identifie un élément qui nous intéresse ici, sans nécessairement partager toutes ses conclusions. Les effets formatifs et normatifs des espaces virtuels. Ces réflexions posent une question décisive, celle d'une tension fondatrice entre efficacité structurante et écart déterminant dans l'écosystème numérique et surtout les milieux immersifs. Au fond, il s'agit d'interroger, dans le cadre de ces environnements soi-disant virtuels, les rapports entre un déterminisme incarné par le formalisme du code et par les algorithmes et les configurations de dissemblance efficaces possibles dans ce même milieu. La tendance vers le collectif dans le jeu, comme dans la sociabilité numérique, remet en question la nature des liens entre l'individu et la collectivité, car elle émane dans ses déclinaisons de pratiques qui sont façonnées par cet habitus de plus en plus virtuel ou virtualisé, pour comprendre l'expression de Manuel ce matin. En d'autres termes, ce sont des formes d'intelligence qui semblent être en conflit ici. Intelligence collective, intelligence de groupe et intelligence de masse, d'une part, et une sorte d'intelligence de l'individu et de la singularité, voire même de la distinction, qui se trouve valorisée d'autant plus que le contexte général semble soumis aux exigences d'une communauté inévitable. Les enjeux sont bien importants, surtout si on pense aux exploitations évidemment commerciales de ces relations, que ce soit dans le monde des jeux ou dans les réseaux sociaux. Mais ils sont également importants quand ils concernent une manière de penser les données, certaines données, et les liens entre traçabilité et mémoire, et surtout dans le cadre des milieux et des jeux immersifs. Si la traçabilité est l'incontournable de l'environnement numérique, elle est en même temps, dans le contexte des mondes virtuels et des jeux vidéo, une variation sur la mémoire qui met en scène corporealité, présence et action. Les données sont ici, et c'est pour moi tout à fait essentiel, à la différence des traces ordinaires dans l'environnement numérique, on ne peut qu'être tracé, lui va en parler j'imagine, les données sont ici souvent associées à des intentionnalités émanant de l'univers du jeu, des intentionnalités susceptibles de fonder des croyances et de communiquer des finalités. Alors que les traces classiques traditionnelles, souvent on leur donne des intentions, alors que en effet, elles n'en ont pas. Et c'est un vrai problème qui se pose. Alors que dans l'univers du jeu de ces mondes virtuels, l'intentionnalité est en tout cas marquée par le contexte. Mais elle est positive. C'est bien ce glissement qui est en fin de compte une résultante du déplacement d'ordre diégétique qui me semble important, surtout dans un regard sur le virtuel tel qu'il se déploie de nos jours dans l'environnement numérique. Il faut ici, il me semble, retourner vers les premières ébauches de cette virtualisation de la représentation de l'intelligence dans l'informatique et le numérique. Rappelons-nous que les deux textes fondateurs de l'intelligence artificielle, je vais aller très rapidement, comme moteur de l'informatique moderne, ceux de von Neumann et de Turing, avaient pour objectif la construction d'une mémoire informatique. L'enjeu était à l'époque de pouvoir stocker la mémoire. Et tout a été construit en gros pour faire la démonstration à la fois matérielle et théorique. Capable d'accueillir les opérations et surtout les résultats des instructions d'un ordinateur. Dans les deux cas, une mimesis est décisive. Et c'est explicite dans les deux textes fondateurs de von Neumann et de Turing. Pour von Neumann, la structure des circuits de l'ordinateur théorique, c'était l'EDVAC de l'époque, reproduisent et imitent les structures des neurones. C'est l'exemple qu'il a utilisé pour expliquer le modèle de la construction de la mémoire informatique. Von Neumann suggère que la transmission de l'information dans le système ressemble au télégraphe et que, en fin de compte, il serait possible de reconstituer les mécanismes mémoriels dans une machine à circuit ou à tube à l'époque. Il n'est point question pour lui de spéculer sur une forme de la pensée ou de l'intelligence dans le sens fort du terme, dans le contexte de la description de l'ordinateur. Pourtant, l'imitation occupe une place cruciale dans la conception quant à la mise en œuvre et la construction de la machine. Turing, par contre, c'est en même temps qu'ils ont publié les textes. pas qui a été le premier, mais ce n'est pas aussi intéressant que ça. Turing, par contre, tout en insistant sur la fonction de l'imitation, va construire un jeu. Et c'était le premier jeu. On a souvent oublié que le Turing test, c'était un jeu. Va construire un jeu dont le but premier est de permettre une évaluation des opérations de l'ordinateur, une évaluation qui est essentiellement comparative. C'est dans ce sens qu'il innove, qu'il rend possible, en dépassant les difficultés classiques posées par les définitions à la fois de la pensée et de l'intelligence, vers un espace ludique mais valorisant. Dans le cadre du jeu, les qualités ne sont pas absolues. Elles sont plutôt relatives dans la mesure où les perceptions des joueurs ou les résultats déterminent les conclusions. Je résume assez rapidement le jeu de Turing. Disait que pour déterminer si l'ordinateur est capable de penser, il y avait un jeu, et si l'interlocuteur n'arrive pas à distinguer les réponses de l'ordinateur des réponses d'un humain, dans ce cas-là, l'ordinateur ressemble à un humain. Et la question qui se posait, il fallait décider est-ce que c'est un homme ou une femme qui parle. Évidemment, on peut faire des analyses assez complexes, si on veut, avec toute la construction de ce jeu, mais néanmoins, c'est ça le jeu. Et il faut se rappeler quand même, on n'a pas parlé d'un test de Turing qu'au moment où Kubrick avait fait le film 2001, Odyssée de l'espace, c'est lui qui a formulé cette expression. Mais avant, on parlait du jeu. Et puis après, on est passé entièrement, et c'est intéressant que c'est un film de Kubrick, un film de science-fiction, qui a donné lieu à cette expression qui est devenue aujourd'hui tellement classique et canonique qu'on a supposé que c'était même l'expression de Turing. Dans le cadre du jeu, les qualités effectivement ne sont pas absolues. Ainsi, dans sa version la plus simple, le Turing test est une estimation et un dénombrement de ce que c'est dans une conversation la reconnaissance de l'humain. Et la conversation est essentielle, effectivement, parce que c'est une échelle argumentative, comme disent les linguistes, mais non pas quelque chose d'absolu. Ce qui importe ici, en tout cas pour moi, c'est que l'ordinateur ou la machine est déjà un joueur, et que c'est bien le jeu qui autorise son intelligence. Le contexte est l'ancrage, et non pas seulement un prétexte. Il répond à une forme délibérative, à des échanges qui activent la mémoire sociale, reconnaître un homme ou une femme, dans le cas de Turing, dans un contexte linguistique spécifique. On peut imaginer les variations linguistiques si on passe d'une langue à une autre, où les pronoms, les adjectifs peuvent complexifier, en vue d'une appréciation de l'intelligence elle-même. L'interactivité élémentaire dans ce cas est devenue aujourd'hui évidemment plus ample et surtout plus complexe et plus riche dans les environnements de divertissement et de jeux numériques. Cette généalogie me semble révélatrice car elle explique en partie les orientations actuelles à la fois de la soi-disant réalité virtuelle et de certains jeux vidéo. Comme on l'a vu rapidement avec l'habitus et l'habit, les périphériques de certains jeux incorporent les deux fonctions et de l'habit et de la sociabilité. Dans une première période, le modèle était celui de l'augmentation, casque, gants, manette, tout ce qu'on veut. Vient ensuite l'interface, dans le sens le plus simple du terme, et on s'approche de ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui comme l'extension. Je pensais à la Wii, par exemple, où la position corporelle est partie intégrale du jeu lui-même. L'interface survient comme une phase transitoire. Puis on est, avec Xbox et tout ce qui est, c'est la position et la mobilité du corps qui sont intégrées à l'espace virtuel lui-même. Il est très difficile de les séparer et l'écran devient quasiment autre chose, il se transforme. On retrouve ici des caractéristiques de l'habitus dans sa manière dont il saisit à la fois l'apparence symbolique du corps dans un espace social hiérarchisé et l'expression de forme implicite de socialisation intégrée dans le paraître. Cette réalité rend compte également d'un changement de vocabulaire important. C'est là où je vais revenir. Le passage de la réalité virtuelle vers le métavers, pour traduire « Metaverse » de Neil Stephenson de Stockrash. Je le cite, « Le métavers est une invention de ma part qui m'est venue à l'esprit quand j'ai réalisé que les mots existants comme réalité virtuelle étaient trop maladroits pour être utilisés. » Fin de citation. Et une somme censée réunir tous les éléments participant à notre réalité actuelle. Stephenson, qui avait visité les héritages de von Neumann et de Turing dans son roman Cryptonomicon, est pionnier dans l'articulation entre la fiction et la technique, entre le récit et le numérique. Son métavers, devenu synonyme de monde virtuel persistant, illustre ce passage continuel entre la fiction et le numérique et qui nourrit, à mon avis, à la fois l'imaginaire informant la construction des espaces sociaux, tout comme les utilisations les plus diverses des mondes persistants. Pour mieux, il faut rappeler quand même que Stevenson est un homme très très érudit. Il a écrit le cycle baroque, sur trois volumes de 1500 pages qui sont consacrés à Leibniz et Newton. Pour vous donner une idée que ce n'est pas seulement un auteur de science-fiction qui maîtrise parfaitement, disons, l'ancien régime, à la fois en Grande-Bretagne comme sur le continent européen. Et sa réflexion, ses récits sont vraiment très très riches, en grande partie, à mon avis, à cause de ce savoir, disons, historique. Pour mieux apprécier l'apport des romans de Stevenson, il faut traverser toute son œuvre, mais on n'a pas le temps. Pour ce matin, il suffit d'examiner rapidement son tout dernier roman, Rimbly, je vais y revenir dans quelques instants, car il participe à une nouvelle tendance dans ce qui était science-fiction et qui est, à mon avis, aujourd'hui de l'ordre d'une nouvelle sorte de fiction, qui n'est plus le cyberpunk, ni le post-punk, cyberpunk et ainsi de suite. Alors, pourquoi insister sur le cas de Neal Stephenson? Pas beaucoup de temps, c'est parce qu'il a voulu maintenir la forme classique du récit dans des romans qui sont très innovateurs et surtout très, très, très importants. Rimbly, je vais y revenir dans quelques instants pour raconter un petit peu ce qui se passe, mais avant, juste quelques mots sur ce métavers et pourquoi je crois il est peut-être pertinent pour une discussion concernant le retour au virtuel. Le métavers est pour moi comme l'habitus, dans le sens étymologique latin du terme. Il se caractérise par quelque chose de tout à fait essentiel, que Bourdieu a vu tout de suite dans son discours, et, c'est-à-dire qu'il échappe à l'observation. On ne peut pas observer l'habitus. On ne peut qu'y participer. Et, c'est-à-dire qu'il est toujours actuel. Et c'est une pensée lamisienne, si on veut, ou si on veut de deuxième, mais néanmoins, ce qui est essentiel, c'est-à-dire qu'il est quelque chose qui ne se donne pas à l'observation. Dans ce sens, tout en incarnant une totalité qui est à la fois technique, sinon culturelle, il partage des qualités du possible et du potentiel. Il reprend les qualités du virtuel dans les sens qu'on va retrouver, marché que j'imagine va en parler, chez Aristote, ou chez d'autres. Par contre, une différence est significative entre les deux, et elle est à retenir entre le métavers et le virtuel dans ce sens-là, l'habitus, ce malgré les similarités qui peuvent exister entre l'habitus comme expression visible d'une convention collective partagée et le code. Parce que quand même, il y a une différence essentielle, c'est que le métavers participe au code. Et sans le code, il ne peut pas exister. Alors que le virtuel, s'il existe par le code, il a existé avant le code. Et il a une version du virtuel qu'on ne cesse de faire passer dans l'univers de code. Et c'est là où on a, à mon sens, beaucoup de difficultés et de problèmes qui se présentent. Cette différence dérive, émane de la nature du code, de sa lisibilité et de la façon dont un individu, ou en tout cas une forme individuelle, qui n'est pas nécessairement autorisée, mais qui est surtout compétente, n'est-ce pas ? Et l'habitus exige une forme de compétence, peut le modifier. Et ça, on va trouver dans tous les romans de science-fiction, que ce soit de Stevenson ou d'autres. C'est bien cette dimension qui explique, en tout cas dans les textes de Stevenson, le rapport ambigu avec la visibilité et la visualisation des mondes soi-disant virtuels. Le monde de Snow Crash dépend sur la visualisation. Visible, des modifications du code dans un métavers unifié. Il faut lire le roman, c'est un peu compliqué, mais c'est toujours quelque chose de visuel qui se présente sur un écran ou qui, dans une forme de visualisation, représente des résultats d'opérations, de modifications du code ou d'instructions importantes. Et une autre signification, à mon avis, qui est importante, et ça, on va toucher à quelque chose de, pour moi, tout à fait fondamental. Il faut revenir à un très beau texte de Neil Stephenson qui s'intitule, je vais citer le titre anglais, « In the beginning was the command line ». Au commencement était la ligne de commande. C'est un texte tout à fait central parce qu'il essaie d'analyser les différences qui existent entre deux interfaces dans nos rapports avec à la fois le métavers, mais surtout le code. Le texte est souvent lu, interprété comme une comparaison entre des interfaces graphiques, « what you see is what you get », et la ligne de commande où on peut coder manipuler, si vous voulez, le système. L'analyse de Stephenson insiste sur deux éléments que je vais retenir ici. C'est un très beau texte de 80 pages qui est disponible gratuitement en ligne sur son site si ça vous intéresse. Évidemment, il faut retenir, je vais y revenir, le titre de la Genèse. Au commencement, était la ligne de commande. On va essayer de revenir quand même. Mais ce qu'il dit, c'est la chose suivante, et qui pour moi est tout à fait valable, c'est que malgré les facilités et l'importance de l'évolution rendue possible par les interfaces graphiques, il y a quelque chose qui leur manque. Et ce qui leur manque, c'est une forme de temporalité cognitive qui ne peut exister que dans le retard ou dans la différence qui est intégrale à la ligne de commande. Si vous manipulez une ligne de commande, vous tapez une commande, touche retour, vous attendez le résultat. Et le résultat d'habitude, si tout se passe bien, vous n'avez pas de résultat, vous avez juste un retour à la ligne. Vous n'avez de message, sauf dans le cas d'une erreur. Mais dans cette attente temporelle, cognitive, il y a énormément de choses qui se passent dans le rapport qui existe entre l'humain et la machine et le système. Et c'est l'analyse de ce rapport qui est très très fort et qui semble être souvent mythifié par les interfaces graphiques. Parce qu'on nous donne toujours des résultats où on attend de résultats. Par exemple, l'exemple qu'on peut toujours donner, c'est la barre de progrès. Il vous reste 3 minutes, vous êtes à 30%, à 40%, ainsi de suite. Parce qu'on ne peut pas vous laisser dans l'attente, sans aucune information. Alors que dans la ligne de commande, il n'y a que l'attente. Mais une attente qui est en effet très active et productrice. Et c'est effectivement, c'est cet élément-là qui touche à la dimension du visible, du virtuel, dans les rapports avec le système informatique et ces infrastructures qui deviennent aujourd'hui, parce qu'il, dans le numérique, et surtout dans les jeux vidéo. Ce virtuel actif s'exprime évidemment sur l'écran, dans un retour à la ligne, mais surtout il devient un lieu privilégié de la communication quasi mystique, mystérieuse, qui ne s'articule pas dans les mots, mais qui s'articule dans l'absence. Ce qui est valorisé, c'est l'absence, parce que l'articulation, c'est l'erreur. Il faut reprendre, il faut recommencer à nouveau. C'est le jeu numérique primordial, ce qui explique en effet son orientation théologique du texte. Alors, parce qu'il faut recréer la genèse du métavers sans cesse à travers les interventions successives des hackers ou des codeurs, dans l'accomplissement d'un choix et surtout d'une destinée qui reste à être actualisée. Et c'est la dimension qui est toujours dérivée du virtuel. L'élément religieux est fondamental, car il autorise non pas une nouvelle religion, loin de là, mais des formes de croyances qui, dans leur potentiel, reconfigurent le monde et ses mythes, surtout quand ces mythes sont de l'ordre du religieux. Et le métavers, dans ce sens-là, et une théologie, qui est également une téléologie. Et là, on peut reprendre toute une dimension du texte qu'on n'a pas le temps d'élaborer, il faut l'avoir. La ligne de commande, toujours présente, est devenue comme une forme ésotérique, pour reprendre à la fois la position religieuse entre exotérique et ésotérique, mais aussi pour reprendre la définition qui a été donnée à ce terme par Leo Strauss, dans son très beau livre, n'est-ce pas, sur l'écriture et les formes de contestation contre la persécution. C'est-à-dire, il y a toujours un double sens, un sens exotérique, un sens ésotérique. Et ce n'est pas un hasard que l'un de ses grands exemples, c'est Spinoza, pour illustrer cet ésotérisme de l'écriture et du travail de l'écriture, dans une forme hérétique mais positive de contestation. Et il me semble que la dimension de ligne de commande incarne en grande partie ce qu'on appelle aujourd'hui activisme, c'est exactement cette dimension qui est qui a existé et qui existe depuis depuis les origines de l'univers numérique et informatique. Dans le métavers, l'univers est créé non pas par un dieu tout-puissant, mais par un système d'exploitation. Et c'est là où on s'est trouvé une deuxième dimension qui quand même raconte l'histoire de l'évolution de notre univers numérique. En tout cas, il était dans une première version. Dans cette période, soi-disant ancienne, qui n'est pas aussi ancienne que ça, le conflit était un conflit entre des systèmes d'opération d'exploitation. On se rappelle tous des guerres qui ont existé entre Microsoft et Apple, ou entre Unix, Linux, et ainsi de suite. Pendant 10 années, on avait vécu qu'il fallait avoir un choix existentiel entre tel ou tel système d'exploitation. Et c'était tout à fait déterminant. Est-ce que vous étiez Mac, vous étiez Windows, et si vous étiez un peu plus avancé, vous étiez dans Unix à l'époque ou Linux. Aujourd'hui, on n'en parle presque plus. Et dans ce qui s'est passé, parce qu'on a évolué de l'importance déterminante du système d'exploitation vers un autre univers qui est géré par des API, Application Programming Interfaces, par un modèle distribué dans le sens fort du terme, non pas comme on parlait à l'époque. Et cette évolution, effectivement, caractérise cette virtualisation qui est l'actualisation du métavers. Parce qu'une fois qu'on se détache, d'abord de l'instrument fixe, stable, on est toujours dans un univers fluide et beaucoup plus difficile à centraliser. Il existe une allégorie, si vous voulez, de cette mutation entre le système, qui est toujours dans l'ordre de la science-fiction. Je ne vais pas parler trop longtemps, on doit s'arrêter. Il suffit de regarder, je ne sais pas si vous vous rappelez du film Tron, qui date quand même d'un certain temps, et qui est quand même assez important dans toute cette mythologie. Dans le film Tron, c'est un jeu vidéo, le créateur d'un jeu vidéo qui réussit à s'introduire au sein même du système où il a créé le jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est, si vous vous rappelez, le vocabulaire théologique est très très explicite. On parle d'orthodoxie et d'hérésie sans cesse dans le film, c'est pas moi qui l'invente. Mais surtout, ce qui est important, c'était à l'époque, la première époque, des systèmes d'exploitation. Alors, il y avait ce qu'on appelait le MCP, le Master Control Program. Et c'était le centralisateur qui veut tout contrôler. Effectivement, la logique du jeu est très simple, c'est que l'humain, c'est l'élément hérétique, celui qui s'écarte de la norme, et le principe et le but premier du MCP, c'est essayer de l'éliminer pour être dans un ordre complètement parfait et normatif. Et du coup, tout le jeu va se jouer dans ce conflit entre le créateur qui se trouve écarté et qui représente cette forme de déviation. Mais l'autre élément qui était également important, et c'était assez rare à l'époque, il faut le rappeler peut-être, si on sera, parce que le film est tout à fait passionnant, la première version, je ne parle pas de la deuxième version, le MCP avait quand même une ambition, il voulait sortir de la machine. C'est-à-dire il ne voulait pas seulement ne pas accueillir l'humain à l'intérieur, il voulait aussi être dans le monde. Et c'est ça ce qui le motive, qui lui donne sa volonté d'action. Et aujourd'hui, effectivement, on est dans des récits où on est sans cesse en train de trouver des passerelles entre le monde du jeu et le monde soi-disant réel. Et c'est ça qui m'amène finalement au texte, au dernier roman de Neal Stephenson. Il s'appelle Remedy, c'est R-E-A-M-D-E, et c'est une variation sur Read Me, lisez-moi, mais le M est introduit à l'intérieur. Il raconte l'histoire d'un jeu très complexe, un peu médiéval, avec des costumes, des pouvoirs qu'on peut acheter, qu'on peut accumuler, et puis on peut avoir ses armées, contrôler un certain territoire. Mais il existe un hacker chinois très 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 doué qui a inventé un petit fichier qui, évidemment, tente tout le monde, qui s'intitule « Comme lisez-moi ». Une fois qu'on le télécharge, après il vous fait le chantage, vous devrez lui payer une certaine somme d'argent au sein même du jeu. Puis après, il a compris comment sortir du jeu pour faire transférer l'argent symbolique en vrai argent. Et le récit se passe sur 700 pages, effectivement, entre le monde réel, le monde financier, les concepteurs du jeu qui essaient de sortir, les banquiers, il y a un terroriste, ça devient assez compliqué, mais néanmoins, c'est précisément, ce sont les passerelles, les va-et-vient, et qui vont mettre en scène, effectivement, tous les éléments qui sont aujourd'hui de ce métavers. Alors, il y a toute une réflexion sur les systèmes financiers qui sont une composante énorme, importante de ce travers. Il y a aussi toute l'exploitation de l'espace ludique dans toute une série, qu'elle soit pédagogique, il y a une partie et d'autres. Et on va trouver en fin de compte, effectivement, tous les éléments de ces échanges, de ces passages entre un monde et un autre. Deux petites remarques avant d'essayer de conclure, pour rester dans les temps. Tout d'abord, ce qui est important, c'est qu'on est passé de jeux qui étaient des jeux de tir ou des jeux immersifs vers des jeux persistants. Et c'est, à mon avis, évidemment, c'est une évolution, on le dit souvent, très important. Mais les jeux persistants ont une qualité qui est sociopolitique. Ici, il y a beaucoup de romans. Je citerai juste un seul qui est peut-être le plus intéressant à cet égard parce qu'il est accessible en français maintenant. C'est de Suarez qui s'intitule Daimon et qui raconte effectivement comment un concepteur de jeu, juste avant son décès parce qu'il avait un cancer et il avait fait une fortune en vendant son jeu, a créé un autre jeu qui se déclenche mais dans le monde réel une fois qu'il est décédé et qui va essayer d'entraîner les joueurs qui acceptent d'entrer dans son univers pour combattre les financiers qui exploitent le système et créent de la pauvreté dans le monde réel. Vous voyez très bien que le jeu devient une arme, un outil de combattre le capitalisme sauvage si on veut, mais ce qui m'intéresse moi, ce sont les moyens de décrire dans les structures narratives que les passerelles et les passages continus et transparents entre l'univers du jeu immersif et persistant et les autres espaces qui sont considérés comme des espaces de jeu qui sont la politique et la finance. Et je crois que c'est bien cette réflexion qui donne la finalité sociopolitique et même éthique de ces mondes virtuels et qui pour moi rappelle effectivement les enjeux de l'habitus dans son sens étymologique. Parce que l'habitus aussi c'était aussi le paraître selon un ordre spécifique. Le moine, par exemple, a son costume, ainsi de suite, et c'est le rang, tout ce qu'on peut retrouver dans le monde des jeux peut se retrouver dans le monde de l'habitus. Et finalement, une dernière remarque, puisqu'on a commencé avec l'éternel retour, je vais terminer par un petit renvoi à un très beau texte de Nietzsche, je crois que c'est dans le Guide Savoir, où il dit, il a une petite définition qui peut être très utile à tous ceux qui veulent créer ou inventer une nouvelle religion. Il y a une petite recette de 5 étapes qui sont très très simples et qui, à mon avis, sont les recettes exactes qu'on peut utiliser pour créer un jeu vidéo immersif. Et ce qu'il dit, c'est tout d'abord, il faut éliminer l'ennui. C'est la première condition absolue et essentielle, c'est absolument éliminer. Deuxième élément, et il faut créer des codes de comportement et de leur valorisation. Alors effectivement, on voit très bien que ça peut correspondre à tout ce qui est dans le monde du jeu et ainsi de suite. Et il me semble qu'on est en train effectivement de vivre dans ce métavers, et ce que je voulais comme conclusion, peut-être il nous faut prendre de distance avec le concept de virtuel et essayer d'aller un peu dans une autre direction, orientation, pour essayer de penser ce que l'environnement, l'écosystème numérique aujourd'hui nous présente et dans lequel on ne peut que participer. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette pensée très, très riche et très originale sur Nietzsche et la création d'une nouvelle religion. Alors je suis sûre que ça ne manquera pas de soulever plein de questions.
C'est plutôt une réaction qu'une question. Je suis frappée, enfin, que ce soit à travers cet exposé ou l'autre, entre la dichotomie qui existe entre la perception de la notion de virtuel profane et la manière dont, quand on se place dans le champ scientifique, nous considérons que cette notion est une notion qui fait écran à la possibilité de penser ce qui se joue derrière, et notamment parce que ça fait obstacle à la pensée de toutes les matérialités qui sont en jeu derrière cette notion. Et par rapport à ça, il y a quand même cette question de déréalisation, ce phénomène de déréalisation qui existe. D'ailleurs, c'était étonnant comment dans l'intervention précédente sur les Phantom Shots, on voit ces deux il n'y a pas de vraie articulation entre l'efficience pragmatique de la notion, notamment dans la manière dont elle est utilisée par les militaires, où on utilise de manière pragmatique le phénomène de déréalisation. Et donc, bon, cet usage profane de la notion et qui est fort, qui fait que moi, je pense pas que cette notion, Stevenson aussi, Stevenson se place dans cette optique en disant, bon, cette notion, il faut la remplacer par métavers, le mot virtuel ne permet pas de penser les choses dans leur complexité. Mais en fait, je pense que il y a vraiment une force du mot virtuel qui existe dans l'expérience profane, dans l'expérience du joueur, dans l'expérience, et qui fait que, bon, je ne suis pas sûre que, même si c'est un combat pour nous de déplacer cette notion et de la remplacer par d'autres termes, il y a une vraie dichotomie, je ne suis pas sûre qu'on y arrive.
Oui, c'est justement, moi je n'ai pas parlé des jeux militaires, surtout des usages militaires des jeux vidéo. Il existe quand même des choses tout à fait passionnantes, surtout par le groupe qui ont travaillé pendant longtemps pour le DARPA pour créer des jeux militaires d'entraînement, après qu'ils sont dissociés, qu'on a créé un jeu qui s'appelle Emergence, et qui est maintenant à but complètement contraire. Mais ce qu'ils ont observé, c'est tout à fait passionnant, tout d'abord deux choses. C'est que si on vit dans une guerre, par exemple, ils ont étudié les guerres civiles, il y a une forme de déréalisation qui n'est pas du tout liée au virtuel, mais plutôt à une nécessité de survie. C'est-à-dire en naturalise la violence parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et c'est pas une déréalisation de ce sens-là, mais pour pouvoir continuer à vivre, on est obligé, d'une manière implicite, inconsciente, on peut analyser comme on veut. Deuxième élément, par contre, ils sont pas du tout convaincus, je trouve leurs arguments sont assez importants, qu'il s'agit de déréalisation dans les entraînements militaires. Par contre, ce qu'ils trouvent, c'est des formes de déplacement cognitif qui permettent de construire des contextes spécifiques où il y a comme une suspension de jugement. Et ça devient assez complexe et assez intéressant. Ce n'est pas nécessairement convaincant, mais néanmoins, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut interroger.
Oui, en tant que merci pour cet exposé. Alors, Ça me fait penser à une partie que je n'ai pas développée, qui aurait pu être en conclusion de mon propre exposé, où j'essayais effectivement je cherchais un terme pour décrire ce qui est dans le prolongement entre le monde numérique et le monde réel, effectivement. Hein, cette articulation dans le contexte de ces flux transactionnels distribués dans l'espace et le temps. Et actuellement, ce que j'essaye de mobiliser, c'est la notion de transmédia, qui est une notion qui est beaucoup utilisée en marketing. Hein, c'est l'idée, par exemple, en marketing, on va faire des produits dérivés à partir d'un film. Voilà. Donc, tout ça, ça existait finalement avant le numérique. Dans le numérique, ça c'est tout à fait aussi intéressant à penser parce qu'il y a bien sûr une multiplicité médiatique à l'intérieur même des applications numériques, entre de la radio, du film, du texte et autres. Mais effectivement, je pense que là où c'est le plus intéressant à envisager, c'est dans cette articulation entre une réalité documentaire, hein, bon, je reviens toujours à notre cadre un peu, voilà, et puis une réalité extra-documentaire, même si le document est numérique, même si le film peut être un... Et effectivement, je pense que les références religieuses sont très très éclairantes. Il y a Louise qui est là, représentante du courant de la médiologie, mais je veux dire, on n'a qu'à voir nos villes, enfin, il y a le récit biblique, et puis... toutes les villes ne sont que des espèces d'incarnations permanentes avec les églises, autour des églises, autour de représentations. Donc, enfin, je veux dire, la cité, c'est le premier espace virtuel, quoi, dans lequel on chemine dans une histoire. Et alors, effectivement, il y a ce prolongement aujourd'hui dans ces documents actifs que tu décris. Mais c'est vrai que je pense que si on essaye de penser la manière dont aujourd'hui on habite nos villes, c'est bien dans une articulation entre des récits qui sont à la fois dans ces nouveaux médias filmiques, des prolongements dans des éléments d'architecture, dans des organisations qui prolongent les jeux, enfin, voilà.
Mais moi, je veux dire, quand on parle de religion, c'est facile à dire, je crois que c'est tout à fait important, que la religion a été la première grande technique de médiation. quelque chose vraiment, bien sûr. En gros, on peut dire ça. Et le numérique est l'une des plus grandes depuis. Mmh. Je crois qu'il y a des formes, parfois de rivalité, parfois de convergence, entre, mais néanmoins entre des structures d'ordre religieux dans la constitution de la culture numérique. Je crois que c'est très important parce qu'il y a des formes de croyances. Moi, j'avais étudié il y a longtemps, malheureusement, ils ont disparu aujourd'hui, c'est dommage, une église qui a été fondée à Boston et qui s'intitulait Nerd Theology. Et ils ont construit quelque chose de tout à fait passionnant, qui était naïf et élémentaire, mais c'était précisément à cause de ça que c'était très, très révélateur. On voit très bien quelques des gens qui sont dit, qui venaient de MIT, de tout cet univers très, très scientifique, grand codeur. Ils ont essayé de formuler ce que c'est que ça. Et c'était absolument passionnant. Parce qu'on voit très bien cette tendance, mais je crois que ce n'est pas seulement exclusivement associé au numérique. Moi, j'avais fait l'étude en anglais, je l'avais appelé à l'époque, en reprenant la formule freudienne, hein, au lieu de penis envy, c'est religious envy. Parce que quand tu regardes de près aux États-Unis, en tout cas, là où je vis depuis longtemps, depuis 30 ans, 32 ans, une fois que tu es un grand scientifique, tu as un Nobel, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un livre pour expliquer l'origine de l'univers. Que tu sois un chimiste, soit un physicien, mais aujourd'hui, tu es un biologiste. Pourquoi? Ils ne peuvent pas résister. Il faut raconter l'origine. C'est la séduction, la tentation de la religion. C'est étonnant. Hawkins a fait fortune avec ça, les biologistes aujourd'hui le font, et les chimistes, Hoffman a fait pareil. Il y a toute une liste. C'est étonnant. Ce sont le seul qui a resté, c'est Feynman, mais les autres, c'est absolument remarquable.
Je signale un beau texte de Régis Debray sur l'origine dans un numéro de Medium sur le mythe de l'origine. Bon, c'était pas le sens de mon intervention. Merci, Milan. Moi, je voulais revenir sur ce que tu dis, finalement, de l'emprise du modèle du métaverse sur l'environnement numérique. Je crois qu'on en avait déjà discuté tous les deux. Moi, je suis un petit peu sceptique. Enfin, disons que je m'interroge, et j'en reparlerai moi-même demain. Finalement, est-ce que ce modèle du métaverse accolé donc à la figure de l'avatar, est-ce qu'il est complètement compatible avec toutes les pratiques et toutes les stratégies autour du profil? Je pense qu'il y a, enfin pour moi, il y a deux modèles qui sont peut-être en concurrence ou en équilibre en ce moment, mais je pense qu'ils sont différents. Je crois qu'il y a une manière de prendre part à l'environnement virtuel qui n'est pas justement celle du métaverse et de l'avatar, qui n'est pas celle de l'habillage. Parce que ce modèle du métaverse, il suppose, j'en reparlerai moi-même demain, puisque j'en ai fait un peu mon propre fil conducteur, il suppose, un continuum. Alors que beaucoup de nos expériences numériques aujourd'hui, beaucoup de notre manière justement de passer sans arrêt du virtuel au réel ou de doubler en permanence le réel par du virtuel, se fait aussi sur le mode de l'éclatement, de la désagrégation, de la dissémination, pas forcément d'ailleurs au sens péjoratif de ces mots, hein, mais au sens d'une pluralisation constante et surtout de la disparition de tout continuum.
Moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où je ne vois pas du tout, par contre, une grande différence entre le modèle de l'avatar, en tout cas de ce que je le conçois, et je le vois à travers certains des tests que j'ai cités, et le modèle du profil. Tout d'abord parce que l'avatar n'est pas dans un continuum dans le sens où l'identité est persistante dans sa nature. Deuxième élément, on peut évidemment concevoir que le profil, c'est une forme d'habillage, d'une forme de présence qui est celle de l'identité numérique dans tel ou tel réseau. Là, je crois qu'on peut retrouver des... Par contre, ce qui est peut-être différent, et ça, je suis également d'accord avec toi, mais c'est existant, le métaverse également, c'est cette forme d'éclatement. Par exemple, je ne sais pas si tu as vu le dernier livre de Barabachi, Burst. C'est littéralement des éclatements. Je crois que le métaverse peut accueillir sans difficulté. En tout cas, pour moi, je ne vois pas du tout, peut-être comme toi, que le profil et le paradigme de profil se détache ou s'éloigne, ou en tout cas, et peut-être aujourd'hui, si je te suis très bien, il existe comme une forme de cohabitation entre le modèle de l'avatar. Je crois que le problème avec l'avatar, c'est qu'on l'a souvent associé à Second Life, pour moi. Et ce n'est pas le modèle, si tu veux. C'est un modèle très restrictif, et qui est un cas particulier. Et il faut penser l'avatar, à mon avis, un peu différemment. Et dans ce cas-là, il rejoint, en effet, le paradigme du profil. Il y a des différences, ça va de soi. Mais néanmoins, je vois, en tout cas, quant à moi, pas autant de différences ou de décalage entre les deux. Surtout que si on accepte que ce n'est pas Second Life qui est le paradigme. Il faut se rappeler quand même que Second Life est assez vieux, il n'a pas été renouvelé, il est presque là pour des raisons qui nous échappent aujourd'hui. Le problème qui existe, c'est qu'on n'a pas eu d'équivalent ou d'alternative. Il y a eu des projets qui étaient ceux de Microsoft ou d'open source, mais qui ne sont jamais vraiment actualisés. Du coup, il est par défaut plutôt que pour d'autres raisons.
Je suis basculé complètement du côté informatique. Je n'avais jamais pensé à ça, mais la ligne de commande aujourd'hui est réactualisée dans les API. C'est bien ça.
Exactement, oui.
Ouais. Et même, est-ce qu'elle est aussi actualisée dans les requêtes qu'un être humain fait au moteur de recherche, aux réseaux sociaux, quand il dialogue avec des hashtags, avec des... c'est aussi des lignes de commande.
En partie, oui, moi je dirais. Mais la ligne de commande classique, enfin, dans le sens... c'est un peu différent quand même.
Une ligne de commande avec un métaverse derrière.
Ouais,
avec...
Oui, exactement. Oui, ça, on est d'accord. Absolument.
Est-ce qu'il y a une dernière question ? Pas une dernière.
Non, non. Oui, vas-y, parce que j'ai déjà parlé.
Pardon.
Merci. Oui, toujours sur le métaverse. Je ne sais pas si... mais je ne connais pas le concept. Mais justement, le fait que de plus en plus, l'espace numérique ne s'y configure plus comme un espace autre, mais comme l'espace principal. J'ai cette impression-là. C'est-à-dire, ce n'est pas... si on utilisait le mot Foucauldien d'hétérotopie, je pense que l'hétérotopie serait plutôt l'espace non numérique plutôt que l'espace numérique. C'est-à-dire avoir un espace principal qui est l'espace numérique et qui, en fait, a tendance à remplir un espace non numérique qui devient un peu un espace restant. Donc, et ce que tu disais au début de ton intervention, quand tu parlais du fait que bon, l'interface disparaît, bon, la ligne de le rapport avec la machine devient de plus en plus transparent, et finalement, l'espace, justement, l'interface n'est plus entre l'usager et l'ordinateur. Ou de toute manière, elle a tendance à devenir transparente. Donc, je me demande si il faut, si l'idée de méta est encore une idée qui peut marcher, ou bien si, dans quel sens, parce que ça devient un peu méta dans le sens de totalisant. C'est ça un peu mon impression de la façon dont l'espace numérique commence à aller au-delà. Justement, je ne saurais pas définir un espace, l'espace restant, sinon comme l'espace non numérique. Voilà.
Ah oui, écoute, en principe, oui, sauf que ce qui est intéressant avec, justement, le métavers, mais avec ce cadre numérique, et là, bon, j'insiste toujours, je crois que c'est peut-être un peu banal, c'est que c'est toujours du code. Et on n'a pas eu le temps d'entrer, et à cause de cette nature-là, il est toujours modifiable d'une manière qui est imprévisible. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir. Alors effectivement, il faut avoir les compétences pour le faire, mais ces compétences sont relativement faciles à acquérir. Et ça change quand même les rapports qu'on avait avant avec des espaces où, pour y être présent et être effectif, il fallait quand même être, comment dire, autorisé. Il y a une forme d'autonomie qui vient même avec ce méta qu'on peut redouter dans certains points de vue. Mais aussi, il ne faut pas prendre le metaverse comme un sens de totalisant, dans le sens qu'on peut prendre métalangage, ainsi de suite. À mon avis, ce n'est pas précisément ça. Ça a été formulé pour essayer de trouver un mot pour saisir quelque chose qui est très fluide et qui est toujours en mouvement, parce qu'il est toujours en train de saisir, de s'élargir, mais aussi de perdre des choses qui sortent, des choses qui entrent. C'est assez lagidien, si tu veux, dans ce sens-là.
Juste autour de cette notion de ligne de commande, je pense qu'il y a vraiment derrière cette évocation de la culture du hacking, quoi, qui effectivement permet, derrière l'interface, d'avoir un accès direct au système d'exploitation ou à d'autres. Et je pense que, on le retrouve dans les pratiques de piratage, dans le détournement autour de Facebook, dans le fait de décimloquer son iPhone, voilà. Et y a vraiment une forme. Mais je pense qu'on pourrait le retrouver dans des pratiques qui sont, enfin, je veux dire, beaucoup, si tu faisais le rapport, le sens de l'écrit au sens assez profond, je pense que dès qu'on sort d'une interprétation, conventionnelle, dès qu'on restitue la multiplicité on est finalement dans cette culture du hacking, alors qu'il devient de plus en plus tangible et, comme tu dis, potentiellement opérationnel, du fait qu'il y a effectivement des automates sur lesquels on agit matériellement, alors que quand on dévoile une couche d'interprétation, ça passe quand même par. Il y a cette idée, voilà, il y a des plans, il y a toute une série de plans qui structurent le bâtiment, le déplacement, le code, une grande forme, je pense, des enjeux de contestation politique passe dans ce rapport comme ça, un petit peu divergent vis-à-vis d'une technique, comme on le voit avec le parti des pirates.
Non, mais je suis entièrement, évidemment, tu reviens d'accord. Je crois même deux minutes, puis on va s'arrêter. J'avais fait ailleurs, c'est-à-dire qu'on a souvent cité, surtout puisqu'on parlait de l'habitus, quand même Max Weber a été important dans cette formulation qu'on retrouve. Les deux éthiques de Max Weber, n'est-ce pas, l'éthique de l'homme politique et l'éthique du savant, l'éthique de la persuasion et l'éthique de la conviction. Il me semble aujourd'hui, avec le code et le hacking, il y a une troisième éthique qui est en train d'émerger. Et c'est ça ce qui est aussi également intéressant. C'est une sorte de positionnement politique qui émerge de la nature même de l'environnement numérique et qui est parfois un mélange, une hybridation des deux et parfois autre chose. Mais c'est quelque chose, une forme d'éthique qui est en train d'émerger, qui est à la fois lettrée et savante, mais qui est aussi également très très politiquement engagée et qui exploite la nature même de l'environnement dans ses langues, dans la manière dont il peut fonctionner et peut tourner.
Est-ce que c'est pas la limite de la comparaison entre la religion et le numérique? Parce que dans la religion, on ne pouvait pas bricoler. Les techniciens ne pouvaient pas bricoler la religion.
Bien sûr, en désaccord, parce que la religion s'est toujours formée grâce aux hérétiques. C'est-à-dire l'orthodoxie a toujours été fabriquée en disant non, eux, ils se trompent. Mais si c'est l'inverse, je dirais, c'est